7 millions de dollars par Sinclair Lewis. Cordwood était né dans l'État de Vermont. Comme tous les Yankees, lorsqu'il gagna l'Ouest, il essaya de tous les métiers et devint successivement vendeur de machines à coudre et de tissus, charpentier, bonisseur, chercheur d'or et journaliste. Il était toujours gai et s'enivrait à l'occasion. Il n'était pas le Yankee traditionnel et flanqué, mais un petit homme aux cheveux frisés, aux yeux vifs et brillants, très remuants, qui prêtait facilement de l'argent à ses amis. Il n'avait pas atteint la trentaine lorsqu'il accepta un emploi stable. Pointeur et magasinier dans un camp de bûcherons situé à quelques 20 miles de l'agglomération de Jackrabbit. Cordwood appréciait cette vie partagée entre le magasin surchauffé, les randonnées dans les forêts de pins envahies par la neige et les longues soirées où, au dortoir, il dansait, disputant la palme au nez bleu, les bûcherons venus de Nouvelle-Écosse. Il étudiait la comptabilité et l'exploitation forestière. Après 2 ans, il fonda un comptoir. Il vendait et achetait de tout, il prêtait de l'argent, s'occupait d'assurance et spéculait sur les terrains. Le bourg de Jackrabbit s'élevait aux confins des forêts. Vers le sud s'étendaient les prairies où l'on manquait de combustible. McGash eut l'idée de vendre et d'expédier par train entier des cordées de bois de chauffage aux fermiers des prairies, puis aux 2 villes jumelles de Saint-Paul et Minneapolis, et jusqu'à Chicago. De là le surnom de Cordwood, celui qui vend du bois à la corde. Il acheta 40 000 arpents de forêt. Lorsque les arbres eurent été impitoyablement abattus, la terre déboisée perdit presque entièrement sa valeur. Les 60 000 dollars amassés par Cordwood furent bientôt menacés d'être absorbés par les taxes. Ce fut alors que l'on découvrit du fer. Les terres sablonneuses révélèrent un affleurement de minerais que l'on pouvait charger directement à la pelle. Le gisement était tout entier situé sur les landes appartenant à Cordwood. Le consortium des aciéries paya largement. Ainsi, à l'âge de 55 ans, célibataire, parce qu'il aimait trop les femmes pour en rendre une singulièrement malheureuse, le petit homme aux mains calleuses, l'agile danseur, se trouva brusquement riche de 7 millions de dollars, désœuvré, ignorant ce qu'il allait faire de cette immense fortune. Il devenait du coup l'unique millionnaire de Jackrabbit, 1200 habitants, où aucun homme n'avait jamais possédé à la fois 2 paires de bretelles. Depuis toujours, Cordwood logeait chez la veuve Tinkerbell, qui tenait une pension de famille, et il ne pouvait se résoudre à la quitter, malgré ses millions. La veuve louait de petites chambres séparées et non des appartements. Il en était d'ailleurs ainsi à l'hôtel du Soleil Couchant et au National. Alors Cordwood retint pour son usage personnel les 6 chambres non communicantes et également privées de confort, situées de part et d'autre du hall du premier étage de la pension. Il les occupait tour à tour, ayant vaguement conscience qu'il accomplissait ainsi son devoir de millionnaire. Il acheta, chez Cohen et Cabot, 5 complets de confection, à carreaux et à raies, 6 paires de chaussures et 17 cravates. Il est vrai qu'il continuait de porter le costume gris, ample et flottant, que Jackrabbit avait vu sur son dos pendant 5 ans, les mêmes souliers usagés dans lesquels ses pieds étaient à l'aise, et son feutre à large bord. De temps à autre, il s'aventurait à sortir la plus rouge de ses cravates. Cependant, en dépit de ce luxe digne de la 5e avenue, il avait l'impression de n'en pas avoir pour son argent. 7 millions de dollars à dépenser, c'était une lourde tâche. Il fit ériger un hall communal et siégea sur l'estrade, le jour de l'inauguration, pour écouter les discours d'un membre du Congrès et de 3 évêques différents. Il envoya à Paris pour y étudier le violon le jeune Leslie Doggins, que Jackrabbit considérait comme un musicien de génie. Alors que la plupart des exécutants jouent d'un seul instrument, Leslie connaissait le violon, le piano, l'harmonium, le saxophone, le cornet à piston, le banjo, le tambour et l'harmonica. Le mécène de Jackrabbit eut la satisfaction de recevoir, pendant des mois, des cartes postales illustrées représentant le plus souvent la tour Eiffel. Ce n'était pas que le petit homme manquât de conseiller quant à la façon de dépenser ses 7 millions. De Saint-Paul à Minneapolis, de Chicago même, par le train, par la route, par la voie des airs, affluaient de souriants gentlemen qui offraient généreusement d'excellents cigares et paraissaient disposés à faire profiter Cordwood d'étonnantes affaires. À l'égard de ces hommes de bonne volonté, Cordwood se montra raide et cassant, manifestant une hauteur qui surprit ses concitoyens. Il avait pourtant écouté patiemment les doléances de nombreux fermiers gênés, qu'il avait aidés sans réserve. On fut surpris de le voir, un jour, brandissant une cruche de terre, poursuivre les marcheurs de New York jusqu'au bout du pont. Ces experts ne comprenaient pas. Ils proposaient à Cordwood des moyens de gagner de l'argent, alors que celui-là cherchait à se débarrasser du sien, en en tirant quelque plaisir, s'entend. Dépenser 7 millions n'est pas chose facile pour un homme qui considère qu'un repas idéal se compose en rôti de porc aux haricots, de pickles, d'un pudding au citron et d'une tasse de café. Certes, il songea à voyager. S'il eût été aux mains d'une femme énergique, il serait parti. Mais des gens dignes de foi l'avaient informé qu'à New York, il fallait prendre un bain tous les jours, qu'à Londres, on rencontrait des lords qui vous appelaient mon vieux, et qu'à Paris, les gens parlaient une langue étrange et dansaient dans les rues. Le petit homme se balançait sur une chaise, assis devant l'hôtel du soleil couchant, en compagnie de Manny Hilgenfritz, l'épicier, et de Tengbaum, le coiffeur, vers la fin d'un après-midi de juin 1933. Il fumait de gros cigares offerts par le millionnaire, lorsque, sans être annoncé par la trompette de Gabriel ou un éclat de tonnerre, l'envoyé du destin s'abattit sur Jack Rabbit et Cordwood McGash. Un homme venait de sortir de l'hôtel du soleil couchant. Il portait un veston à ceinture piquée, un pantalon de golf couleur d'herbe sèche, une casquette assortie, des lunettes sans monture apparente, un pull-over bleu à boutons jaunes canari, des bas à carreaux noirs et bleus, des souliers de cuir blanc et jaune. L'apparition ôta sa casquette pour se gratter la tête, révélant une calvitie qui faisait penser à des bureaux, des registres, des machines à calculer et un compte en banque. « Encore un philanthrope qui veut m'offrir 40% d'intérêt dans quelque nouvelle affaire !» ricana Cordwood en une rage soudaine, qui souffla sur son calme comme une brusque rafale sur un lac de montagne. « Non, j'avais oublié de te parler de lui, » dit Ole Tengbaum, le coiffeur. « C'est Percy Willoughby. Il est né ici. Son père était maître d'école. Ils ont quitté le pays avant votre venue, il y a 25 ans. Percy doit en avoir 40. C'est un financier imbrait. Il était dans une banque, à Milwaukee, caissier ou président du conseil d'administration, quelque chose comme ça. Il va à Seattle. Il s'est arrêté un jour au pays. Hé, Percy !» Mr. Percy Willoughby s'approcha d'un pas souple et léger. Son sourire était doux et mystérieux, comme celui d'un homme de finance. « Bonjour, Ole, » dit-il. « Avez-vous le temps de me raser ?»« Bien sûr, Percy. Mais voici deux vieux camarades que tu n'as pas connus. Tu as quitté Jack Rabbit avant leur arrivée. Manny Hilgenfritz et Cordwood McGash. » Mr. Willoughby s'immobilisa, soudain grave et respectueux. « Mr. McGash, » dit-il, « permettez-moi de vous féliciter. J'ai appris votre magnifique succès. » Cordwood lui serra la main. « Vous n'êtes pas assureur, au moins ? » demanda-t-il, méfiant. « Non, ni courtier. Vous ne connaissez pas d'affaires immobilières rapportant 40%. Je serais heureux d'en connaître une qui rapporte à 5% net. « Asseyez-vous, » dit Cordwood avec un soupir de soulagement. « Voulez-vous, puisque vous êtes de passage, dîner avec moi ce soir chez la veuve Tinkerbell, 6 heures précises ?»« Avec le plus grand plaisir, » répondit M. Percy Willoughby. Après qu'il eut persuadé la veuve Tinkerbell qu'il n'avait pas l'intention de critiquer sa cuisine, après qu'elle eut séché ses larmes et consenti à écouter, Cordwood commanda pour son invité un repas somptueux. Le millionnaire ne dit pas un mot pendant le dîner. Ses yeux pâles ne quittaient pas Mr. Willoughby, qui tenait sous le charme Mrs. Tinkerbell et ses pensionnaires. Le petit homme ne fut point insensible à la volubilité de Percy et à la riche documentation de ses discours. Mais il fut surtout conquis par le fait que son invité avait, pour dîner, changé de costume. Cet homme, qui voyageait en automobile, presque sans bagage, avait revêtu, pour se rendre chez la veuve Tinkerbell, un élégant complet marine rayé d'une mince ligne blanche aussi légère qu'un rêve de jeune fille. Il portait un collant pesé, une cravate Eton, des souliers noirs et des guêtres blanches. « Élégance et savoir-vivre, » songea Cordwood. « Mais pourquoi les guêtres ? Aurait-il une tendance à s'enrhumer des chevilles ?» Après le repas, il invita Percy à visiter ses appartements. Jamais Cordwood ne regretta autant que les 6 chambres fussent séparées. Il eût aimé les montrer d'enfilade. Il dut se résoudre à recevoir son hôte dans la plus grande. Cordwood s'assit sur le lit, Percy dans le vieux fauteuil Maurice. McGash versa 2 copieux whisky. « Je suppose que vous allez occuper quelque poste important à Seattle, » dit-il, « caissier de banque ou directeur. » Percy, qui venait de boire, tout ça, surpris par la force de l'alcool, et regarda son verre avec une sorte de réprobation, puis l'éclata brusquement de rire en un courageux accès de franchise. « Je ne sais pas, Mr. McGash, » dit-il. « Voyez-vous, les gens du pays se plaignent à imaginer que j'étais, au moins, vice-président d'une banque de Minneapolis. C'est faux. J'étais secrétaire particulier et homme à tout faire du président, qui me chargeait de préparer les rendez-vous, les menus et les cocktails. Il a dû se priver de mes services, réduction du personnel et compression des dépenses. Mais je suis un excellent secrétaire. Je puis organiser une réunion de conseil d'administration ou une vente de charité ou un voyage en Chine. Mais dire que je suis un type dans le genre de Mr. Mellon, ce serait exagéré. » Cette rondeur plut à Cordwood. Ah, s'il avait un conseiller, un guide comme Percy. Il eut soudain l'impression d'avoir avalé ses 7 millions de dollars et cela lui pesait au creux de l'estomac. « Pourriez-vous rester quelque temps ici, m'aider à y voir un peu plus clair ?» demanda-t-il. Le troisième jour, Percy suggéra. « J'ai réfléchi, patron. Vous n'êtes pas très bien ici. Pourquoi ne loueriez-vous pas la maison Macmillan ? Elle est trop grande. Et puis il faudrait la meubler. Je m'en chargerai. J'ai dirigé l'installation de l'appartement du président à Milwaukee. Je ne puis quitter ainsi Mrs. Tinkerbell. Prenez-la comme gouvernante. Cela vous permettra d'avoir des invités tous les soirs. Un bar, une salle de jeu, maison ouverte pour tous vos amis. Vous ferez venir quelques-uns de vos copains des camps de bûcherons, deux ou trois qui passeront ici une semaine à tour de rôle. « Ce ne serait pas si mal, » murmura Cordwood. La maison Macmillan était l'immeuble le plus important de la petite ville. Elle était vide depuis 10 ans et comptait 16 pièces. Pour Jack Rabbit, c'était aussi grand que le château de Windsor. Cordwood loua. Mr. Willoughby emmena son patron à Minneapolis pour y acheter des meubles. Mais avant leur départ, Mrs. Mabel Banner entra en scène d'un pas ferme et assuré. Entre les notables Jack Rabbit, Mr. Scallion, le banquier, le révérend Mitch et Cordwood, McGash, aucun n'avait autant d'importance que Mrs. Banner. Veuve à 40 ans, du redoutable Henry S. Banner, éditeur du journal local, elle était directrice du collège, bibliothécaire de la ville, présidente de Soros's Club et grande matrone de la loge Étoile Orientale. Elle avait des lèvres un peu minces, mais des dents parfaites. Derrière les verres de ses lunettes, ses yeux riaient. Cordwood McGash considérait qu'elle ressemblait à la fois à la Reine Marie et à une joueuse de baseball. Il l'admirait, comme il admirait le pôle Nord et le système de crédit international avec un respect tout platonique. Elle vint le voir chez la veuve Tinkerbell. Master McGash, je vous mets en garde contre ce Percy Willoughby. Il va rapidement vous pousser à une vie de désordre, et j'imagine que vous n'avez pas besoin d'être vigoureusement encouragé. Il vous emmène à Minneapolis. Il y a là-bas des salles de jeu, des établissements peu recommandables. Vous reviendrez avec une canne et peut-être un chapeau de forme. Madame, Percy est mon ami. Je ne laisserai jamais personne dire du mal de mes amis, répondit Cordwood, piqué au vif. Il la regarda froidement. Pour la première fois, Mabel parut s'apercevoir que le nouveau millionnaire n'était pas commode. Elle rougit et sa voix s'adoucit. « Je désirais seulement vous prévenir, » murmura-t-elle. « Nous vous considérons comme le premier citoyen de Jack Rabbit. » Pendant quelques heures, Cordwood McGash se réjouit à l'idée absolument neuve qu'il était l'homme le plus important de la communauté. Et puisqu'on l'avait suggéré, on allait bien voir s'il ne reviendrait pas avec une canne et un chapeau de soie. Mais à Minneapolis, Percy Willoughby refusa de le laisser agir à son gré. Il interdit même les guêtres et le monocle. « Je puis, dit-il, m'habiller de façon voyante et ridicule. Je ne suis qu'un secrétaire. Un homme de votre importance doit demeurer conservateur, en apparence. Cela lui permet de l'être au point en réalité. » Il conduisit Cordwood chez un tailleur et commanda pour lui 4 complets de teintes presque neutres. « J'ai 7 millions, » gémissait intérieurement le petit homme. « Je n'ai pas le droit de m'habiller proprement. » Il reconnut cependant que son secrétaire avait transformé l'immeuble Macmillan en une maison comme l'on n'en avait jamais eu à Jack Rabbit. Cordwood admirait surtout le bar et ne se lassait pas de tourner les commutateurs des fourneaux électriques. Mais il éprouvait une sorte de gêne dans sa salle de bain où la baignoire était en marbre, les robinets dorés, le plafond concellé d'écailles d'or. Un immense miroir était dressé dans le fond. Chaque fois qu'il se voyait nu dans la glace, le petit homme ne pouvait s'empêcher de rougir. Il y en eut pour 30 000 $. Percy s'était réservé l'une des pièces exiguës du rez-de-chaussée et l'avait aménagée en un bureau très simple, si simple que Cordwood aimait à y séjourner. Un jour que le secrétaire était sorti, un rendez-vous avec des bootleggers, le petit homme s'assit devant le bureau et feuilleta les factures soigneusement classées sur le buvard. Il tomba sur une lettre adressée à Percy et l'informant que Mr. Wombat & Co. avait le plaisir de joindre un chèque réglant la commission de 10% réclamée par Mr. Willoughby sur le montant des achats effectués par S.G. McGash Esquire. Cordwood pâlit. Il faudrait renvoyer Percy Harry de nouveau comme un orphelin sans défense dans la forêt de 7 000 000. Il demeura un long moment stupide sur le point de pleurer. Mais Percy entra en sifflotant. Il regarda Cordwood, puis les factures. « J'ai acheté, dit-il, 10 caisses de whisky très buvables à 100 $ la caisse. Dois-je payer ?»« Oh, cela me rappelle que je dois 3 000 $, patron. »«
Quoi ?»«
Oui, j'ai demandé au décorateur de me réserver une commission de 10%. » À condition, bien entendu, que les prix fixés ne fussent point majorés. J'ai reçu leur chèque, cet argent vous revient.
« Que Dieu vous bénisse, mon garçon !» soupira Cordwood, soulagé.
« Gardez ça. Je suis bien content que vous ayez repris un peu d'argent à ces pirates. Il est à vous, vous l'avez bien gagné. »
Percy était foncièrement honnête. Le cœur du petit homme se remit à chanter dans sa poitrine comme un oiseau joyeux. Il ne restait plus qu'à jouir de la vie. Il y eut des fêtes magnifiques. Jusqu'à 5 h du matin, un cœur de bûcheron aux chemises à carreaux noirs et rouges beuglait, dans une sorte d'extase douloureuse, des chansons à boire ou de sentimentales mélodies. La maison Macmillan eut rapidement acquis une détestable réputation si Percy, sans avertir Cordwood, n'avait invité à la fois le Sorority Club et la Société Musicale Féminine après avoir envoyé les bûcherons à leur camp pour une cure d'air et de sommeil. La réception fut empreinte d'une parfaite correction. On servit du thé, du cacao, des sandwiches à la pâte d'anchois, au chutney, au gingembre. Un peu plus tard, non sans rudesse, Percy insista pour que Cordwood parlât aux hommes réunis par le révérend Mitch pour une conférence religieuse sur les causes du succès. Percy rédigea l'allocution de son patron qui attribuait son succès à sa frugalité, sa sobriété, l'influence de sa mère et la fréquentation de l'école du dimanche, jadis dans l'état de Vermont. Le printemps vint. Le petit homme, accoutumé à sa belle maison et aux fantastiques beuveries, n'en tirait plus aucun plaisir. Il lui restait 6 880 000 $. Il aspirait à un changement, quelque chose d'entièrement neuf. Il n'osait en parler à Percy, craignant que celui-ci suggérât un voyage à New York. Alors Leslie Doggins, que Cordwood avait envoyé à Paris pour étudier le violon, écrivit de longues lettres à son protecteur. La 5e contenait une discrète allusion à l'augmentation de sa pension, mais les 4 premières avaient échauffé l'imagination du petit homme par d'étonnantes descriptions de Paris. Il semblait que cette ville étonnante, Leslie n'en parlait que par ouï-dire, car il travaillait 18 heures par jour, était composée uniquement de luxueux cafés où le champagne coûtait 2 cents le verre, où de ravissantes jeunes femmes appelées cocottes mouraient d'envie de connaître des Américains, de vrais Américains, comme Cordwood. « Pourquoi ne viendriez-vous pas avec quelques guides ? Je serai votre guide, » suggérait Leslie Coggins. Cordwood réfléchit. L'offre le tentait. Cependant, il ne pouvait déserter ainsi. Ses amis de Jack Rabbit avaient le droit d'exiger qu'il assurât leur bonheur. Alors brusquement, il eut une idée. Pourquoi n'emmènerait-il pas la ville entière ? C'était une chose à laquelle aucun millionnaire n'avait encore songé. Il hésita à soumettre sa trouvaille à l'acide critique de Percy Willoughby, et il se gourmandait. « C'est mon affaire, après tout. Je n'ai pas de permission à lui demander. Pour qui se prend-il ? Pour Mabel Banner ?» Après 4 jours d'attente, courageusement, il fit part à Percy de son inspiration. Louer des trains spéciaux, un paquebot, emmener tous ceux qui voudraient venir à Paris, Rome et Londres. Percy écouta patiemment. Patiemment, il discuta. Oui, c'est une idée extraordinaire, patron, mais c'est pratiquement impossible. Tant de monde. Je sais, Percy, il y aurait aussi beaucoup d'argent à manier chaque jour. Un nuage, rêve et poésie, voilà les yeux du secrétaire. « Oui, dit-il, beaucoup d'argent manié. Quand partons-nous ? En juin ?»
Ça avait été très facile.
Lorsque, dans l'innocence de son cœur, il annonça à ses concitoyens ce qu'il avait décidé de faire pour eux, Cordwood fut surpris de constater que les habitants de Jack Rabbit n'étaient pas unanimes à partager son brûlant enthousiasme. Ils avaient presque tous un foyer, une femme, des enfants, une situation stable. Ils aimaient pouvoir retrouver leurs pantoufles dans la salle de bain sans le secours de la lumière électrique. Il fallut discuter, les persuader. En cela, il fit preuve d'une certaine habileté. Il expliqua à Mrs. Mabel Banner que la caravane tout entière visiterait les trésors d'art et d'architecture qui avaient rendu Paris si justement célèbre. Puis Cordwood convainquit Ole Tengbaum, Manny Hilgenfritz, Sarim Ben Delary, Emil Cohen qu'ils passeraient leur journée sous la direction de Leslie Doggins à déguster d'étranges et excellentes boissons allant du champagne à la vodka. À Mr. Scallion, le banquier, au révérend Mitch, il parla de son désir de procéder à une étude approfondie des systèmes financiers et religieux de la France, si toutefois ils existaient dans un pays aussi barbare. Lors du meeting qu'il convoqua, après une semaine de propagande, le petit homme annonça, avec une certaine brusquerie, son désir de mener à ses frais une croisade en Europe. Mais ce fut Percy Willoughby, en smoking, qui raconta des anecdotes, parla de l'aigle d'Amérique, des pionniers du Nouveau Monde et du général Lafayette. À Paris, hôtel respectable, c'est-à-dire où le personnel parlerait américain. On ferait venir de Minneapolis une équipe chargée d'expédier les affaires courantes de Jack Rabbit en l'absence des habitants. Mr. McGage paierait tous les frais, pourboire compris. Un bureau était installé où tous ceux qui désiraient participer au voyage étaient invités à s'inscrire sans retard. Les premiers adhérents bénéficieraient des meilleures places dans le train et sur le bateau. Au nom de la population tout entière, Percy Willoughby désirait remercier. Il fut interrompu par Ben Pilshaw, le marchand de conserve, qui demanda l'assistance de pousser trois hurrahs pour le vieux Cordwood McGash. Le révérend Mitch lui-même mêla sa voix à ses frénétiques acclamations. En trois jours, 887 habitants sur 1231 s'inscrivirent. Percy avait choisi personnellement l'homme chargé de veiller aux intérêts de la ville pendant l'absence des voyageurs. Il s'appelait Blythe, le colonel Blythe. Il avait été militaire, policier, banquier, courtier et chef des services municipaux de la ville de Septima, dans l'état d'Ohio. Derrière l'excellent colonel arriva un détachement de personnes expertes à surveiller les propriétés, manier un extincteur, répondre au courrier ou le faire suivre. Cette organisation spéciale fut mise à contribution avant même que la caravane partît pour le grand voyage qui lui apparaissait comme la route mystérieuse de Samarcande. Puisque Cordwood désirait qu'il l'aidasse à dépenser son argent, les citoyens de Jack Rabbit conclurent que le petit homme s'engageait, de ce fait, à guérir tous leurs maux, spirituels et temporels, afin que chacun pût s'embarquer en paix. On lui demanda de payer des fermages, des intérêts hypothécaires. Trois personnes réclamaient une légère intervention chirurgicale aux frais de Cordwood. Ces autres insistaient pour un traitement chez le dentiste. Elles parlaient à McGage avec un mélange de tristesse et de colère, comme si le petit homme avait apporté à Jack Rabbit les germes de la carie dentaire. Percy et le colonel Blythe faisaient merveille, s'efforçant de régler tous ces détails, mais les demandeurs insistaient pour voir personnellement Cordwood. Celui-ci n'avait pas supputé, avant d'inviter la ville tout entière, le coût d'un voyage aussi formidable. Le paquebot La Dipsomanie revenait à 25 000 $ par jour, sans compter les pourboires, le bar, l'orchestre. Percy rappela Cordwood qu'il fallait compter très largement. Cordwood McGash était si simple qu'il s'étonna de voir arriver des journalistes. Il en vint de Duluth, de Saint-Paul, de Minneapolis, de Chicago. Il trouva étrange et incroyable qu'un millionnaire eût l'idée d'emmener en Europe une ville entière. Leur surprise s'accrut lorsqu'ils constatèrent que Cordwood n'était pas en quête de publicité et se réjouissait en songeant que sa photographie serait reproduite par les principaux quotidiens. Toute la bande des reporters fut installée à la maison Macmillan et le bar demeura ouvert jour et nuit. Depuis l'arrivée du président Wilson à Paris, le télégraphe n'avait jamais transmis d'article aussi dithyrambique. Cependant, le jour du départ arriva.
Aux citoyens de Jackrabbit s'étaient joints quelques vieux amis de Cordwood venus des camps de bûcherons. 911 voyageurs devaient prendre place dans deux trains spéciaux. Les 300 personnes qui ne partaient pas et tous les fermiers des environs se pressaient sur le quai de la gare. Du sein de cette foule bourdonnante, une sonnerie de clairons s'éleva, puis une petite troupe se fraya un passage, un groupe en uniforme, casque orné d'un plumet, tunique rouge, culotte jaune à bandes vertes, bottes de cavalerie. C'était la fanfare de Jackrabbit qui jouait « Voici les beaux jours revenus ». Ils défilèrent gravement le long du train avant de s'embarquer dans un wagon du premier convoi. Percy, debout près de Cordwood, protesta. « Vous n'emmenez pas la fanfare ?»«
Mais si, bien sûr !»« C'est une surprise, » dit McGash. « J'espère obtenir la permission de défiler dans la 5e avenue et à Paris. »
Percy soupira, mais du bout des doigts, il toucha dans sa poche une liasse de billets et son visage se rasséréna.
Cornwood sentit une tristesse l'envahir comme le train s'ébranlait. Il regardait Jackrabbit, les pompes à essence, les parcs à bétail, les cours des scieries, l'espace de terre battue, où devant un hangar recouvert de cartons goudronnés, il avait flâné avec ses amis à dire de grands mensonges, tandis que l'on passait à la ronde une bouteille de whisky. Retrouvera-t-il tout cela? Il avait à dessein choisi une couchette supérieure, estimant que ses invités avaient droit à tous les égards. À Saint-Paul et Minneapolis, les deux villes jumelles, une foule de curieux attendait le train de Jackrabbit. Des reporters s'élancèrent qui désiraient connaître l'avis du nouveau millionnaire sur l'emprunt lituanien et savoir s'il était vrai que le révérend Mitch avait l'intention de prêcher à Notre-Dame de Paris. Mais ce fut à Chicago que Cordwood McGash entra vraiment dans l'histoire. Un millier de spectateurs, 18 reporters, 19 caméramen. Percy, pressé par Cordwood, avait demandé télégraphiquement la permission de défiler dans State Street au cours des 6 heures que les citoyens de Jackrabbit consacreraient à l'étude de l'économie politique, de la vie municipale et artistique et des bars de Chicago. Le tambour-major en tête de la colonne lançait et rattrapait sa canne. Les troubadours de Jackrabbit battaient du tambour et soufflaient dans les cuivres. Cordwood McGash suivait, à la tête du détachement qui agitait des bannières et portait des banderoles où l'on pouvait lire en lettres roses, « Jackrabbit, la plus petite grande ville des États-Unis ». Chicago les accueillit avec un plaisir évident. Sur les trottoirs, les citadins riaient sous cape. Des gamins suivaient le cortège, imitant la démarche des campagnards. On criait « Vive les Jackrabbiteurs !» Cordwood était plongé dans une profonde jubilation, qui dura l'espace de 3 blocs. Il ne comprenait pas que Percy ait refusé d'assister à cette enthousiaste manifestation, digne de la démocratie américaine. Mais bientôt il se demanda, en remarquant l'allure des gamins qui suivaient, le ventre en avant, les bras ballants, dodelinant de la tête, si ceux-ci ne se moquaient pas. Cordwood sursauta et vit la foule qui rigolait sur le trottoir. « Mon Dieu ! « Il se fiche de nous »
murmura-t-il.
Cela dura jusqu'au bout de State Street, et il fallut revenir. À la gare, il fit appeler le chef de fanfare et lui dit à voix basse « Peter, je suis très ennuyé. Ces gens de Chicago se sont moqués de nous. Fini les parades, regagnez vos instruments et amusez-vous comme tout le monde. »
Peter Clopote, peintre en bâtiment et musicien, protesta.
« Quoi ? Nous n'effilerons pas dans la 5e avenue, ni à Paris comme c'était entendu, non ?»
Les lèvres de Cordwood étaient blanches, soudain amincies.
« Alors tu nous as trompés? Tu paieras notre voyage. Nous retournons à Jackrabbit. »«
Certainement. »«
Et toi, va me chercher Mr. Willoughby, qu'il apporte un carnet de chèques. »
Peter Clopote capitula sur le champ, imité par toute la fanfare. Mais c'était bien triste. Pendant toute la durée du voyage, du fond de quelques chambres d'hôtel, de l'abri d'un canot de sauvetage, montaient parfois les gémissements assourdis des cuivres ou les roulements voilés d'un tambour. L'accueil moqueur de Chicago avait profondément blessé Cordwood McGash. Il se réfugia dans le 2e wagon auprès de Mabel Banner. Le petit homme admirait Mabel du coin de l'œil. Elle avait un teint de porcelaine. Il passa machinalement ses doigts courts sur ses joues rugueuses. Cependant, il avait su trouver grâce aux yeux de cette femme étonnante. Elle avait souri tout à l'heure, quand il avait, manifestant son goût pour la belle musique, demandé aux occupants du salon qui écoutait un Fox à la radio, de tourner le bouton afin que l'on puisse entendre le concert classique quotidien. Cela lui donna le courage d'affronter New York et ses reporters. Un détachement organisé de journalistes cerna Cordwood et le harcela de questions. Ces questions insidieuses qui ont poussé tant de gens, enivrés par une brève célébrité, à dire ce qu'ils pensent. On lui demanda son avis sur la prohibition, sur le livre de Gertrude Stein, la pêche à la truite, l'avenir de la Chine. Lorsqu'il lut les journaux du soir, le petit homme, épouvanté, quitta son hôtel et s'enfuit à bord de la Dipsomanie, qui devait partir le surlendemain. Il était si irrité qu'il se dirigea sans hésitation vers la suite royale réservée au banquier Scallion. Percy et Cordwood avaient discuté avant le départ de la répartition de la caravane à bord du paquebot. Il n'existait que 780 couchettes de première classe, le reste consistait en cabines de touristes. Cordwood avait donc résolu de donner l'exemple en s'installant dans l'une de ces cabines. Il demanderait aux plus jeunes des invités de s'en contenter. Tout était donc parfaitement arrangé, mais lorsque le petit homme se réfugia à bord, dans sa fureur, il arracha la carte de Scallion déjà fixée sur la porte de la suite royale, la remplaça par la sienne, entra, jeta son chapeau sur le piano à queue, ses chaussures sur un bureau néo-gothique et sonna pour qu'on lui apportât du whisky. Le lendemain soir, il avait recouvré son calme. Assis sur le pont supérieur, il contemplait les gratte-ciels dont les silhouettes se découpaient sur le ciel vert pâle. Peut-être, après tout, Paris était-il une ville agréable. Il eut un bruit sec de talons sur les planches. Mabel Banner tira un transatlantique près de celui de Cordwood et s'assit. Elle posa sa main sur celle du petit homme. « je comprends, » fit-elle doucement. « Ils m'ont fait dire des choses idiotes, » gémit Cordwood, « que je l'ai loué une rue qui s'appelle Champs-Élysées. » Il s'embarrassa dans la prononciation. « Pour y cultiver des pommes de terre. » Ils ont publié une photo truquée, j'étais assis sur un char, défilant dans Chicago, derrière la fanfare. « je sais, Mr. McGash, mais tout cela est déjà oublié. New York oublie au bout de 48 heures. « Comment avez-vous su que j'étais à bord, Mabel ?»« Mr. Willoughby me l'a dit, Cordwood. »« Ah, il n'est pourtant pas bavard. » Je l'ai menacé de révéler aux journalistes qu'il avait l'intention de fuir en emportant l'argent du tour. « Comment il a... »« Non, pas encore. » soupira Mabel. Ils se turent. Cordwood, du bout des doigts, toucha l'extrémité de l'écharpe soyeuse que la brise poussait vers lui. Mabel ne s'en aperçut pas. Il soupira. Elle soupira. Ils soupirèrent ensemble. « Mr. McGash, Cordwood, » dit-elle soudain, « il faut réagir. J'ai faim. Si nous allions dîner à terre tous les deux, c'est une excellente idée, Mabel. » « C'est la femme la plus exquise que j'ai jamais rencontrée, » songea Cordwood lorsqu'il regagnait seul sa cabine. « Elle est charmante, cultivée. Elle a de si fines chevilles. Mais je n'oserais jamais lui prendre la main, lui caresser l'épaule. » Le lendemain, les pèlerins s'installèrent à bord. À Jackrabbit, ils avaient vécu séparés. Le train les avait réunis pendant 48 heures, mais ce fut seulement en pleine mer qu'ils purent cordialement se détester. Ils se divisèrent tout de suite en 4 groupes, ceux qui ne songeaient qu'au whisky et aux cartes, ceux qui lisaient sur le pont, mais se levaient de temps à autre pour aller au bar, ceux qui représentaient la culture et la morale et fronçaient constamment les sourcils, ceux enfin qui semblaient n'être venus que pour désapprouver ce que faisaient les autres. Aucun des 4 groupes ne pouvait supporter les autres et par malheur, il arriva que mari et femme adhérèrent à des groupes différents. Cordwood et Percy se prodiguaient, haletant, s'efforçant de pousser les passagers à s'aimer les uns les autres. C'était difficile. À Jackrabbit, les différences de fortune étaient moins sensibles, mais réunies à bord, les femmes devenaient facilement envieuses. Celles qui n'avaient pas de robe du soir détestaient celles qui en avaient une. Celles-ci, à leur tour, jalousaient celles qui en avaient plusieurs. Quant à Mrs. Scallion, qui avait un bracelet de diamants et ne s'en cachait pas, elle s'attira une vigoureuse haine collective. On jalousait celle qui avait une cabine mieux exposée, celle qui avait les plus aimables stewards, celle qui avait pris les premières dans la bibliothèque les meilleurs romans policiers. Ce fut une orgie de haine. On avait depuis longtemps oublié que dans le train, Cordwood avait choisi une couchette supérieure, et on commentait avec amertume son occupation de la suite royale. Il aurait pu faire un effort, se préoccuper du bien-être de ses invités. Ils furent heureusement reçus à Cherbourg par l'état-major au complet de l'American Express et de T. Cook & Sons. Après l'échauffourée de la douane, Cordwood s'assit dans le train et regarda le paysage. Il constata avec surprise qu'il y avait en France des champs, des arbres et des routes qui ressemblaient étrangement à ceux de Jack Rabbit. Il y eut moins de désordre à Paris. Les étages entiers avaient été retenus dans des hôtels aux environs de la rue Saint-Honoré. Dans l'un des hôtels, Percy installa un bureau permanent de renseignements qui devait tout prévoir. Des gares pour Versailles et Fontainebleau, la visite de Montmartre et Montparnasse la nuit, la liste des établissements des Halles réputés pour la qualité de leur soupe à l'oignon, et l'adresse des maisons où l'on pouvait acheter par douzaine, au prix de gros, des robes de Gustave Bernard. Cordwood MacGage passa sa première soirée à Paris en compagnie de Leslie Doggins, le jeune homme qu'il avait envoyé en France pour étudier le violon. Le millionnaire craignait de voir apparaître son protégé en costume litvin et barbe noire. Il avait appris par un film tourné à Paris que les artistes s'habillaient ainsi, mais il fut vite rassuré. Leslie portait un complet gris comme un Jack Rabbit. Il poussa des cris de joie en voyant Cordwood, et il ne le mena pas dans une maison mal famée, mais dans un bar vraiment américain, Eddie's Chicago Bar, où ils rencontrèrent des compatriotes qui vendaient des automobiles, des films, des machines à coudre et des mitrailleuses. La salle était décorée avec des placards de publicité américaine, les portraits de Coolidge et de Harding. Cordwood se réjouit de retrouver ce cadre familier. Il poussa un soupir de satisfaction et ils avalèrent un premier whisky. « Où dînons-nous ? » demanda Leslie. « Où tu voudras, garçon ? Au meilleur restaurant de cette ville, bien sûr. » Ceci se passait vers 6h30. Une heure plus tard, le petit homme remarqua l'air pauvre de Leslie, son costume fripé. L'artiste mit à pleurer. Il travaillait, mais les leçons étaient chères, la colophane hors de prix. À 8h30, Cordwood pleurait à son tour. Il éprouva quelques difficultés à rédiger un chèque de $1000 qu'il glissa discrètement dans la main de Leslie. Celui-ci s'attendrit. Il ne méritait pas une telle bonté. Il deviendra le meilleur violoniste du monde. Puis il sécha ses larmes avec une singulière rapidité et dit « Si nous allions dîner ?»« Entendu, encore un whisky. » À 9h, Cordwood n'y voyait plus très clair. Il aurait juré qu'un journaliste, un représentant en conserve alimentaire et deux sénateurs américains, était assis l'instant d'avant à sa table. Il se frotta les yeux et ne vit que Leslie. À 4h, il se réveilla. Il était dans son lit, à l'hôtel, complètement nu, sauf qu'il avait gardé son chapeau et ses chaussures. Il regarda autour de soi dans la chambre. Les sénateurs, Leslie et le journaliste avaient disparu. Rien ne rappelait la soirée précédente qu'un grand carré de papier d'emballage placé en évidence au pied du lit, sur lequel on avait écrit avec du rouge à lèvres « Merci pour le petit cheval, Leslie et Lily ». Cordwood s'aperçut que la porte était entr'ouverte. Dans le couloir, une vingtaine des habitants les plus éminents de Jack Rabbit étaient rassemblés. La scandaleuse conduite de Cordwood et de Mrs. Banner mit le comble à la fureur des croisés et poussa les révoltés aux barricades. Mr. Mitch, Mr. Scallion et Mrs. Berkland réunirent environ 80 des personnages les plus marquants de la caravane dans un coin de l'immense salle à manger. Mr. Scallion présidait. Il lut les vœux et remontrances rédigés par le comité. Attendu que les sous-signés n'avaient manifesté aucun désir de se rendre en Europe, Sir S. Guy MacGash, Esquire, les y avait invités sous certaines conditions, que le dit MacGash, au mépris de ses promesses et de ses devoirs de citoyen américain, ne s'était pas soucié du bien-être de ses hôtes et avait fait preuve à Paris d'une légèreté regrettable, le comité exigeait que Mr. S. Guy MacGash tînt les promesses qu'il avait faites avant le départ, à savoir que Mr. Scallion se rendrait à Londres, muni de lettres d'introduction pour l'ambassadeur des États-Unis, le directeur de la Banque d'Angleterre et un certain nombre de lords, séjour payé à l'hôtel pour lui, Mrs. Scallion et le jeune Mervyn. Que le révérend Mitch, Mrs. Mitch et leurs enfants seraient autorisés à se rendre, tout frais payés, aux Indes et en Chine pour y enquêter sur l'état des missions américaines. Que Mr. Cohen et Cabot seraient délégués à Monte-Carlo pour y étudier l'état moral de la colonie américaine. La séance allait être levée lorsque le petit homme parut, se dirigeant à pas pressé vers l'estrade improvisée. Percy le suivait. La veuve Tinkerbell avait écouté à la porte et donné l'alarme. Cordwood fit face au mécontent et donna un coup de poing sur la table, un coup de poing qui ébranla l'estrade. « On m'informe, dit-il, que vous avez décidé de vous séparer et d'en faire à votre tête, à votre aise. J'avais l'intention de vous emmener à Londres et à Rome, mais puisque vous désirez désormais agir à votre gré, je ne m'inquiéterai pas davantage. Demain à midi, les billets de passage pour le retour seront à votre disposition au bureau des renseignements. Nous embarquerons après-demain sur la Douloureuse. Il n'y a qu'une classe à part, pas de bar gratuit. Ceux qui auront soif paieront. Ceux qui n'auront pas retiré leur billet demain à 6 heures rentreront à leurs frais ou resteront à Paris. » Le voyage sur la Douloureuse manqua de gaieté. Seul Cordwood paraissait soulagé. Mais le troisième jour, le petit homme perdit brusquement sa belle humeur. Il avait reçu un télégramme du shérif de Marais à Jack Rabbit. « Ville entière brûle. Colonel Blight en fuite, emportant somme contenue cave, banque et coffre-fort bureau-poste. » Avant d'annoncer le désastre à ses concitoyens, Cordwood travailla plusieurs heures avec Percy. Ils calculèrent que le voyage avait coûté $1 million et qu'il en faudrait 3 fois autant pour rebâtir la ville. « Cela me laisse 3 millions, » soupira Cordwood. Lorsque la nouvelle de la catastrophe fut annoncée, Mrs. Scallion tenta de se jeter à la mer, et chacun se lamenta à la pensée des trésors inestimables qu'il avait perdus. Tous, comme un seul homme, accusèrent Cordwood d'avoir causé leur malheur. Des groupes indignés, aux visages menaçants, se formaient dans tous les coins. Percy réunit tout le monde après le dîner dans la salle à manger, et Cordwood annonça que personne ne perdrait 1 dollar. « Préparez, dit Mrs. Banner, la liste de ce que vous avez perdu ou de ce que vous allez prétendre avoir perdu. Remettez ces listes à Mr. Willoughby et peut-être Mr. McGash sera-t-il assez bon pour payer ce que vous réclamez. » « Décidément, je n'aime pas cette femme, » murmura Mrs. Berkland à Mrs. Mitch. Ils se séparèrent, chacun regagnant sa cabine pour établir la liste de ses pertes et s'empresser de la porter le premier à la cabine de Cordwood. Ils paraissaient tous jouir d'une extraordinaire mémoire. Le stock des magasins était impressionnant. Sidney Bendelary, qui aimait Cordwood ou son whisky, remit une liste qui aurait permis d'installer 20 de pharmacies. Celle de Cohen et Cabot aurait suffi à approvisionner un grand magasin de nouveautés de Chicago. Cordwood reçut les listes sans un battement de paupières. Il fit une seule réflexion. « Je n'ai jamais vu chez Cohen et Cabot de pyjama à $50. » Il aurait tout payé, mais Percy et Mabel protestèrent. Ils parlèrent d'assurance, d'inventaire, d'expertise. Ils ne le laissèrent pas coucher ce soir-là qu'il n'ait accepté un comité de liquidation, composé de Percy, Mr. Scallion et le juge Kilgore, qui déciderait du pourcentage à payer, exigerait un reçu et la promesse écrite de rembourser le surplus éventuel après expertise. Le comité paya près de $3 millions. Le petit homme songea tristement qu'il restait encore 3 millions. Le dernier soir, Percy suggéra que Cordwood demeura quelque temps à New York et laissa ses concitoyens regagner seuls les ruines fumantes de Jack Rabbit sous la conduite du fidèle secrétaire. Cordwood n'avait qu'à signer un chèque de $500 000 afin que Percy pût faire face aux plus pressés. Il demanderait des reçus, bien sûr, pour toutes les dépenses qu'il devrait faire. « C'est une excellente idée, » approuva Cordwood. « J'ai à peine vu New York. 500 000, entendu, est-ce suffisant ? » Je demandai à Mrs. Banner de rester. Ils s'amusèrent à New York raisonnablement. Un soir vint où Mabel demanda. « Cordwood, mon cher Cordwood, je voudrais un chèque de $500 000. » Le petit homme reçut un grand coup au cœur. Mabel était la seule personne qui ne lui a jamais rien demandé. Il se sentit d'un coup très bas, abandonné. « Ce n'est pas pour moi, » dit-elle vivement, mais pour rebâtir plus tard le hall que vous avez fait ériger à Jack Rabbit. » Rasséréné, Cordwood signa en riant. Le lendemain matin, tandis que Mabel et la veuve étaient chez le coiffeur pour une permanente, McGash songea à se rendre chez l'homme de loi qui s'occupait de gérer ses capitaux. Il fut reçu avec une certaine froideur par Mr. Giddlepop en personne. « Mr. McGash, dit-il, je m'inquiète de voir fondre ainsi vos capitaux. Ces $2 millions que votre fondé de pouvoir, le colonel Blight, a retiré de la banque. » Blight ? 2 millions ? Mais oui, il avait votre procuration. Puis-je la voir ? C'était un faux. Ainsi Cordwood, McGash, qui s'était forcé de dépenser rapidement son immense fortune, se trouva sur le trottoir sans 1 dollar. Il avait toujours cru que cela lui ferait un certain plaisir,
mais en vérité, se remettre à travailler, coucher dans la paille, sous un hangar, ce n'était pas gai. Soudain, il s'arrêta au coin de la 34e rue et de la 5e avenue et éclata de rire.
Idiot! Il avait oublié que ce brave et honnête Percy avait les 500 000 derniers dollars.
Il se rendit à l'hôtel où l'attendait un télégramme de Mr. Scallion.
Willoughby disparut depuis Gare Newark.
Cordwood se dirigea vers l'ascenseur, le télégramme à la main, sans prendre garde à son pourboire habituel. Dans l'ascenseur, il éclata de nouveau de rire.
« Après tout, dit-il, je ne serai pas obligé de me marier.
Bah, les haricots ne sont pas si mauvais, si on sait les préparer convenablement. » Il ouvrit la porte de son appartement. Maybelle était assise dans le salon, devant une petite table.
« 500 000 dollars à 5%, cela fait 25 000 dollars de revenus. »
Près de 400 000 francs français, bien plus qu'aucun de nous ne mérite.
Cette maison dont je parlais, Cordwood, c'est la nôtre, celle que nous louerons à Paris.
Je comprends, fit le petit homme. Mais alors il faut nous procurer une licence de mariage et retenir notre place sur un paquebot.
Tout est prêt,
dit-elle doucement. Ainsi s'achève 7 millions de dollars par Sinclair Lewis.